Ça vous fait sourire, Julie Gacon, bonjour.
C'est très joli, on en prend de la graine. Bonjour Jacques Munier.
Bon, 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Aujourd'hui, l'annonce de Boris Johnson de proroger la suspension du Parlement britannique face au refus des parlementaires.
Oui, certains députés et leur soutien, ceux qui ont dénoncé un coup d'État, un coup de force ou une décision digne d'une dictature, ce sont les mots de la première ministre écossaise. Ceux-là ont fourbi leurs armes juridiques pour empêcher cette suspension du Parlement pour 5 semaines décrétée mercredi par Boris Johnson. Suspension qui, je le rappelle, commencera une bonne semaine après la rentrée parlementaire, laquelle est maintenue, elle, le 3 septembre, et s'achèvera le 14 octobre, 15 jours avant la date prévue du Brexit. Bonjour Aurélien Antoine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de droit à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Vous êtes directeur de l'Observatoire du Brexit, ce qui, depuis hier, dépose des recours tous azimuts, notamment auprès de la Court of Session écossaise qui doit rendre aujourd'hui une première décision. Ont-ils des chances d'aboutir ?
Écoutez, je ne suis pas Madame Yarma, il y a tellement de surprises.
Juridiquement.
Nous verrons bien, mais juridiquement, on s'accorde à dire que ce sera quand même très difficile d'obtenir un jugement défavorable au gouvernement.
Pourquoi ?
Alors, les raisons en sont simples. Si vous voulez, la décision qu'a prise Boris Johnson, enfin la reine formellement, est une décision relativement classique. En fait, elle est assez extraordinaire de plusieurs points de vue, c'est certain, par sa longueur, par le moment où elle intervient, parce qu'elle conduit à ce que le gouvernement, pour l'instant, n'a pas eu à rendre beaucoup de comptes devant le Parlement sur la question du Brexit. Mais, si vous voulez, entre l'acte juridique qui est tout à fait possible, légal, et ses motivations, la question se pose de savoir est-ce que les juges vont pouvoir se prononcer sur cette motivation qui est éminemment politique et qui n'est pas juridique. Donc si ils veulent passer outre cet obstacle, il va falloir qu'ils disent que la prorogation a frustré les droits du Parlement qui sont indispensables à protéger justement les droits des citoyens qui seraient atteints par exemple à l'issue d'un Brexit sans accord. Ça paraît évidemment très difficile à démontrer.
Alors vous dites que la décision de Boris Johnson est politique davantage que juridique, mais les opposants qui ont saisi la Court of Session écossaise, laquelle doit rendre sa décision, enfin en tout cas une première décision aujourd'hui, ont dénoncé cette décision comme inconstitutionnelle, donc juridiquement inconstitutionnelle. D'ailleurs c'était assez surprenant comme qualification, parce qu'on a l'habitude de dire que l'Angleterre et la Grande-Bretagne n'ont pas de constitution, le Royaume-Uni si, mais qu'elle est non écrite. En l'occurrence, est-ce que le caractère particulier de la Constitution britannique a joué, je voudrais dire techniquement, dans la stratégie de Boris Johnson?
Alors, votre question est tout à fait excellente et mériterait bon. Évidemment de longs développements. Effectivement, c'est un pays tout à fait particulier du point de vue de la tradition juridique constitutionnelle. Il n'y a pas un document dans lequel on a en gros à peu près toutes les règles constitutionnelles. Mais il faut relativiser cet élément pour plusieurs points de vue. Le premier, c'est que nous aussi, on a des conflits d'interprétation des normes constitutionnelles, quand bien même seraient-elles écrites principalement dans le document qu'est la Constitution de 1958. Vous savez, on a deux déclarations, la Déclaration des droits de l'homme et par exemple le préambule 2. De la Constitution de 46 dans notre Constitution qui consacre des principes parfois assez contradictoires. C'est au juge d'en assurer la conciliation. D'une certaine manière, même quand vous avez des usages constitutionnels, des règles non écrites, le juge britannique fera la même chose. La difficulté, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'avoir une constitution écrite permettrait de résoudre beaucoup plus facilement les crises, ce n'est pas vrai. Je pense qu'on a eu des bonnes illustrations, notamment en France. Mais dans le cas présent du Royaume-Uni, c'est vrai que là, Boris Johnson a utilisé une arme juridique, une prérogative royale, on l'appelle, c'est certain, mais à des fins très politiques, et le juge ne saurait se prononcer sur la motivation politique d'un acte juridique. C'est d'ailleurs pareil chez nous. La question, une fois encore, c'est de savoir si cette motivation politique, c'est ce que recherchent les requérants, peut être, j'allais dire, transformée en atteinte au droit du Parlement de façon directe, et dans ces cas-là, on pourrait transformer la motivation politique en une illégalité. Mais encore une fois, il me paraît difficile de dire que le droit était complètement atteint, le droit du Parlement complètement atteint, parce que le Parlement a quand même eu l'occasion de se prononcer sur le Brexit. Il m'a entrepris, il n'a pas trouvé de solution, il a encore des fenêtres de tir, d'ailleurs toutes les actions auxquelles on assiste actuellement montre bien que, comme je disais, ce n'est pas un coup d'État. Sinon, vous pourrez, un coup d'État, en général, vous ne pouvez pas recourir aux juridictions. Vous ne pouvez pas encore avoir des possibilités de défaire le gouvernement ou d'adopter des lois pour le contrer. Donc il y a encore des possibilités.
Cette souveraineté parlementaire, c'est l'un des principes primordiaux de cette constitution non écrite britannique. Or là, les députés ne pourront quand même plus, pendant 5 semaines, exercer ce droit fondamental, ne serait-ce que de questionner le gouvernement. C'est ça que dénoncent les opposants.
Oui, mais si vous voulez, c'est juste 2 semaines de plus par rapport à d'habitude. Voilà.
Parce qu'il y a toujours une suspension en septembre pour les congrès des différents partis, enfin les universités d'été, quoi, entre guillemets.
C'est une suspension d'ailleurs. C'est pas une suspension juridiquement parlant. C'est une véritable prorogation. C'est-à-dire que ça, si vous voulez, tout s'arrête et on recommence. C'est-à-dire qu'on a un nouveau discours du trône. Ce qui est d'ailleurs oublié d'être dit, c'est qu'à l'issue de ce discours de trône, si l'opposition et aussi un groupe de parlementaires estiment qu'ils ne l'acceptent pas, ça vaut motion de défiance. Ça, c'est souvent oublié. Donc, encore une fois, il y a une fenêtre de tir, vous le voyez. Donc, effectivement, c'est 2 semaines de plus. Ça peut paraître choquant, parce que c'est pour ça que Boris Johnson est quand même un peu malin, c'est que c'est prorogé 5 semaines, ça a déjà existé.
Plus malin qu'il ne laisse croire, alors. Oui, plus malin qu'il ne laisse paraître.
Le problème avec Boris Johnson, c'est qu'il a l'air fou, c'est qu'il fait exprès de faire des bourdes, donc il avance parfois un petit peu masqué. Il y a un édito du Monde, il disait qu'il y a le Boris Johnson fou, il y a le Boris Johnson ci, il y a le Boris... C'est vrai qu'il y a plusieurs Boris Johnson. Il y a le Boris Johnson brutal. Là, en ce moment, il est brutal, mais il le fait, je l'ai dit, de façon très maligne.
Voilà. Alors, vous avez évoqué, Aurélien Antoine, la motion de défiance, et certains, comme Jeremy Corbyn, le leader du parti travailliste, en parlent et dit qu'il fera voter par les députés une motion de défiance lorsqu'ils se réuniront la semaine prochaine. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas-là? Est-ce qu'ils ont le temps ensuite de mener à terme cette pratique-là, ce recours-là?
Alors, la motion de défiance n'a d'intérêt que si on a une vraie alternative à l'équipe de Boris Johnson. C'est-à-dire que quand elle sera mise aux voix, il faudrait bien que un parlementaire soit assuré d'avoir une équipe alternative. Pour deux raisons. La première, c'est que voter la défiance, le gouvernement tombe, mais il reste en place à défaut de trouver une autre équipe. Et le second aspect, c'est que s'il n'y a pas d'équipe remplacée, Boris Johnson pourra rester au pouvoir jusqu'au 31 octobre. D'ailleurs, il l'a affirmé. Alors, ce qui n'est pas clair, c'est qu'il a dit que quoi qu'il en soit, même en cas de motion de défiance, le Brexit se fera au 31 octobre parce qu'il ne démissionnera pas immédiatement. La question est-ce qu'il ne démissionnera pas immédiatement, même s'il y a une équipe alternative qui a été adoubée par le Parlement? Là, je pense que vraiment, il irait vraiment trop loin et ce serait vraiment une crise constitutionnelle. Pour le coup, très grave, là, je pense que les juridictions pourraient avoir une autre position si elle se prononçait sur un tel refus. Mais tout ça est un problème de temps. Le temps joue pour Boris Johnson.
Alors, s'y revient cette idée, ici et là, d'écrire enfin une constitution jusque-là non écrite, et on a bien entendu, Aurélien Antoine, que vous étiez de votre côté sceptique sur cette proposition, mais ceux qui disent qu'il faudrait écrire une constitution, c'est qu'ils avancent le fait que, voilà, on a aujourd'hui un Premier ministre qui n'a jamais recueilli que 5% des voix de l'électorat britannique, qui n'a pas été élu, qui suspend un Parlement national souverain pour faire avancer un Brexit sur lequel, a priori, il n'a pas de mandat. Voilà ce que disent aujourd'hui le débat existe vraiment aujourd'hui sur faut-il écrire une constitution qui ne l'est pas encore.
Ben, si vous voulez, la question n'est pas tant de savoir quelle est la forme que doit prendre la règle, c'est si la règle existe. Si Boris Johnson a pu, évoluer de la sorte depuis qu'il est au 10 Downing Street, c'est que le droit le lui a permis. Donc si on ne veut plus que ça se produise, eh ben, on fait émerger soit une nouvelle règle constitutionnelle coutumière, soit une nouvelle législation. Pourquoi pas? Je vais vous donner un exemple tout simple. Avant, la décision de dissoudre la Chambre des communes était justement une prérogative royale complètement absolue. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas la contester. C'est le Premier ministre qui le décidait librement. La reine suivait évidemment. Et point. Et en 2010, le Parlement a décidé d'adopter une loi qui encadre très fortement cette prérogative. aujourd'hui, ce n'est plus une prérogative royale. Donc c'est possible. C'est comme si nous, nous modifions notre constitution. Mais il ne faut pas penser qu'une constitution écrite, j'allais dire classique, permet d'éviter toutes les crises. Et nous, on en a eu un bon exemple, hein. Vous voyez, la crise des Gilets jaunes, par exemple. C'est pas notre constitution qui a donné les premiers moyens de sortir de crise. C'est effectivement le président de la République, souvent seul, de façon, on discute beaucoup du Royaume-Uni, mais quand même, sans prendre vraiment en considération les parlementaires, en introduisant un débat dans lequel il était au centre, est-ce que c'était vraiment démocratique, etc. Vous voyez, je pense que la solution est pas aussi simple.
Voilà, la crise britannique, la crise politique vue d'un point de vue institutionnel et constitutionnel. Merci à vous, Aurélien Antoine. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, au revoir.